la bienvenue dans notre séance de l'après-midi qui sera consacrée au contrat public dans le contexte de l'administration publique. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir confié la charge qui n'est pas la plus lourde, mais qui est le cas de moi, qui permettra le temps de présider cette table ronde. Je vais par ailleurs, sans plus tarder, passer la parole aux intervenants en rappelant la consigne que je vous avais déjà donnée, c'était bien compte tenu du nombre d'interventions dans la durée de la table ronde, de veiller à ne pas dépasser l'horaire indiqué. Et donc je cède la parole pour commencer à Laurent Vidal, qui est maître de conférence de l'école de droit de la Sorbonne, et qui va nous parler du bilan et des perspectives de la dématérialisation des marchés publics. Vous avez la parole, cher collègue.
Merci, cher collègue. Alors, je vais essayer de tenir dans les 20 minutes. Vous aurez remarqué que le sujet, je ne sais pas si William Gilles, l'organisateur de la réflexion, il était puis bilan et perspective avec un point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y a des perspectives, s'il y a un point d'interrogation perspective, parce que je dirais, pour le coup, les perspectives seraient assez noires. Alors je crois qu'en fait, il y a de la perspective, on va essayer de le voir, donc il faut se garder ici un excès de pessimisme ou d'optimisme. Mais je vous rappelle ici qu'il y a eu une matinée organisée le 24 mai 2012 sur le thème achat public informatique et bonne pratique, et je me suis aperçu à cette occasion de la très forte interaction dans ce domaine, qui existe toujours, bien évidemment. Et dans ce domaine, l'interaction entre la pratique des droits était très forte et que, je dirais, les outils juridiques étaient très largement perfectibles, notamment en termes de performance économique. On y reviendra. Alors, avant de faire un bilan, de rentrer dans le bilan, je crois que pour ceux qui ne sont pas ici coutumiers des marchés publics, quand on veut faire un bilan, il faut déjà savoir de quoi on parle, me semble-t-il. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous donner quelques éléments de contexte et insister sur certains points clés en particulier. Alors, les éléments de contexte, simplement vous dire que depuis 2001, il y a eu des mouvements à la fois développement technique et réglementaire. Le développement technique, c'est très simple, le logiciel standard qui évolue vers l'interopérabilité, et puis 2.5, collectivité publique, pour ne prendre que ces exemples, développent très largement la numérisation de leur patrie. Alors maintenant, de manière plus substantielle, les développements réglementaires, outils dits obligations. Alors d'abord, pour les outils, vous le savez, article 56 du Code des marchés publics, grand 1 de l'article 48 du même code, deux outils importants également, l'arrêté du 14 décembre 2009 et l'arrêté du 28 août 2006. Vous savez que l'arrêté du 28 août 2006 a été abrogé en partie, sauf pour ces articles 5 à 7 qui concernent la signature électronique sur laquelle nous reviendrons. Alors, là aussi, des outils normatifs, le Code civil, qui évoque la preuve électronique dans ses articles 1316 et suivants. Et pour les entités et pouvoirs soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005, eh bien, je vous renvoie aux deux articles 14 des décrets du 20 octobre et du 30 décembre 2005. Alors, la petite chose, c'est que les contraintes en termes de dématérialisation des procédures sont moins fortes pour les entités et les pouvoirs de l'ordonnance du 6 juin 2005. Là aussi, un guide de la dématérialisation a été édicté et conçu par le ministère, il est très intéressant, il soulève une bonne part des questions. Alors, tout ça s'inscrit, vous l'avez dit, j'imagine, ce matin, dans un contexte général de dématérialisation. Alors, qui dit norme dit également obligation. J'insiste sur ce petit historique qui permettra, pour ceux en tant que particulier, de remettre un petit peu les choses au clair. En 12 ans, les progrès ont été importants. En 2001, le Code des marchés autorise la transmission, mais dans certains cas, l'acheteur peut imposer pour les procédures de concurrence simplifiée, les procédures adaptées, les prises électroniques. 2005, 4 ans après, l'acheteur ne peut refuser d'entrer dans la pli. 2010, 10 ans plus tard, donc 10 ans plus fort, l'acheteur peut imposer la transmission des prises électroniques. Et échéance importante, 2012, 1er janvier 2012, l'acheteur ne peut refuser d'entrer dans les prises électroniques pour que les achats de rentrée supérieurs à 90 000 euros. Alors, c'est une avancée incontestable, de raison, parce que vous verrez tout à l'heure que c'est par l'obligation réglementaire que les entités, les pouvoirs, y compris les opérateurs, ont progressé. Et c'est une avancée incontestable pour deux raisons. Ça permet l'investissement dans les nouvelles technologies et ça oblige les acheteurs publics à s'équiper de solutions informatiques. Je ne sais pas sur les détails du tableau. Une chose, pour ceux qui ne sont pas coutumés, la question du profil acheteur, qui est un point essentiel en la matière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un profil acheteur? Un site dédié, d'accord, accessible en ligne obligatoire à partir de 90 000 euros en taxe, mais qui est capable de deux choses. On va retrouver cette dichotomie régulière entre, d'un côté, le premier stade, si j'ose dire, de la dématérialisation, tout ce qui est téléchargement des documents de la consultation, et dans une seconde étape, plus élaborée, plus complexe, tout ce qui est la possibilité de la réception des candidatures et des autres, ce qui pose techniquement plus de problèmes, on verra tout à l'heure. Alors, quelques points clés maintenant, avec, après avoir dressé quelques points de contexte, des points clés, j'en ai retenu 6, le contenu de la publicité, l'APC en marché public, voire à contenir obligatoirement l'adresse électronique du parfum d'acheteur, et la mention du format. Et cette adresse électronique, j'ai donné un premier exemple de jurisprudence, doit être, comment dirais-je, très précautionneusement établi, puisque un tribunal administratif a jugé que le fait d'avoir écrit achatpublic.com et non pas public.com rendait bien la procédure amère, si je veux dire. Ensuite, sur le choix du format, alors je passe sur le choix du format, s'il vous plaît, c'est important, hein, il y a des précisions sur le format pour les candidatures et les offres, et aussi dans la consultation, vous les retrouverez dans l'écrit. Petite chose quand même, n'oubliez jamais qu'il s'agisse dans les marchés publics ou support papier ou support électronique, les règles sont les mêmes, le respect des grands principes de marché public vaut exactement de la même façon qu'au format papier ou sous format électronique, et notamment absence de discrimination et de rupture d'égalité par le biais de formats qui ne seraient pas adaptés. Ceci étant dit, les bons formats peuvent être, je dirais, plus aisément aujourd'hui requis, puisqu'il existe, vous savez, un référentiel général d'interopérabilité, le RGI, qui a été complété par un référentiel général de sécurité, le RGS, et ce fameux référentiel d'interopérabilité, bien permet d'établir des recommandations qui concernent notamment les formats, hein, des outils qui seront utilisés par les acheteurs publics, encore une fois, sous réserve de respecter les grands principes de la commande. Troisième point sur lequel je veux attirer votre attention, la question de la confidentialité des candidatures et des offres. Là aussi, il y a deux façons d'assurer cette confidentialité, soit certificat de confidentialité, c'est un cryptage, soit un contrefort virtuel. On retrouve là aussi les obligations qu'on exige sur le support papier. Quatrième point, la question de la signature électronique sur laquelle on va revenir. Regardez, elle est définie ici, article 1316 de la Code civil. Qu'est-ce que c'est qu'une signature électronique dans le marché public, un cryptage de fichiers qui permet d'identifier son auteur mais aussi d'empêcher sa modification. Et regardez, je vous ai aussi trouvé une jurisprudence, et à Toulouse, les documents doivent être signés séparément. Et vous ne pouvez pas, si vous signez en gros sur la plateforme l'enveloppe où on le dit, l'offre ne sera pas. Bon, il y a tout un système d'agrément des signatures électroniques, je passe. Cinquième point, le nom de fichier. Là aussi, chaque fichier doit recevoir un nom. Ça permet d'éviter la risque de confusion entre les pièces, puisque matériellement, les opérateurs et commandants ont des difficultés à se servir en support électronique. Dernier petit point, la copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde permet de rassurer les opérateurs économiques. Mais attention, attention, le Conseil d'État, à la Cour administrative d'appel, a rappelé que la copie de sauvegarde n'avait pas vocation à couvrir toutes les erreurs des candidats. Donc, qui dit copie de sauvegarde, dire c'est une assurance, mais attention, ça ne se repère. Alors maintenant, une fois qu'on a dressé ces petits points, je vais rentrer dans un bilan des perspectives. Alors, dans un sujet sur le bilan des perspectives, grand bilan au genre de perspective, c'est une très mauvaise copie. Donc, si un bilan que vous avez fait pour les autres, vous ne verrez pas. Alors, je vais faire un bilan et deux des perspectives qui sont moins longues. Alors, un bilan d'abord, je dirais, opérationnel, d'un point de vue pratique des opérateurs. On a ici deux documents importants que je vous incite à consulter. Une étude TMS Sofres qui a été menée en 2007 sur à la fois la perception, mais également les leviers et les freins à l'utilisation de la dématérialisation. Des acheteurs, des vendeurs, c'est un terme simple, c'est le terme envoyé par l'étude, des vendeurs, donc des opérateurs économiques, que en ressortit d'abord une crainte des acheteurs publics du recours juridique qui brise la gestion du marché, et autre crainte, mais je crois que nous avons pu pouvoir confirmer, une crainte notamment de la complexité des démarches administratives, notamment, et puis la crainte de voir son offre refusée ou aboutissant. Alors, il ressort une adhésion globale au principe de la dématérialisation, on n'oublie pas, mais en 2007, mais une mise en place qui est beaucoup plus critiquée. Alors, les principes soit saluée. Mais la coordination reste difficile pour plusieurs raisons. D'abord, un manque d'expérience et d'expérimentation, et puis des freins qui sont moins rationnels, hein, des freins beaucoup moins rationnels, ça peut développer cette idée. Ensuite, l'appropriation est illégale, lorsqu'on passe maintenant à un examen très pratique, l'appropriation est assez illégale. Alors, on peut distinguer deux phases, en amont des rétentions d'appel d'offres et en aval. Alors, pour ce qui concerne l'amont des rétentions d'appel d'offres, là aussi, le bilan est assez contrasté. Globalement, cette phase est assez appropriée, elle est maîtrisée par certains. Alors, d'un point de vue des acheteurs, il n'y a pas de difficulté à sélectionner la bonne plateforme, d'accord ? Et là aussi, il n'y a pas de grande difficulté à publier des avis d'appel public à la concurrence sur les plateformes. Simplement, deux freins habituels, c'est la question du volume des documents à mettre en ligne, d'accord ? Donc seulement difficulté à mettre des documents très lourds, mais là on est en 2007, hein, 2007, mettre en ligne des documents un peu lourds, et la question de la confidentialité, à l'époque, les acheteurs sont assez frileux sur ces questions. Du côté des vendeurs, des opérateurs, là aussi, l'identification des avis d'appel à la concurrence se fait assez aisément, et puis le téléchargement se fait tout simplement pour tout ce qui est documents de la consultation, mais on va le voir, utilisation bien moins pour ce qui concerne la transmission des offres et des candidatures. Alors, voilà les points négatifs. Les vendeurs, les opérateurs perçoivent, du moins dénoncent une politique à la géométrie variable mise en ligne des DCE, beaucoup trop de place, des dossiers trop lourds, et de leur côté, les acheteurs reprochent aux opérateurs de leur demander à la fois le support papier, alors qu'ils vont demander à passer par un support électronique, donc double le travail. Pour ce qui est maintenant de la phase des réponses elles-mêmes, là aussi, on constate à l'époque, fin 2007, que les opérateurs, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, ne se sont pas appropriés dans l'ensemble des procédures électroniques. Et effectivement, la transmission et la réception constituent le principal problème de la démarche. Alors là aussi, toutes les raisons sont évoquées ici, pour les acheteurs publics à craindre un recours, des problèmes informatiques, le comportement des entreprises et pour les vendeurs, là aussi, comme à l'époque, il n'y a pas d'obligation précise, tant qu'il n'y a pas d'obligation, d'où l'intérêt de la réforme du 1er janvier 2012, absence d'obligation, donc on ne s'avance pas sur ces terrains pour la réforme des banques de 2007. Alors, là aussi, investissement en termes de temps, trop de lourdeur pour les opérateurs économiques, d'accord, et puis c'est qu'ils n'ont jamais eu recours assez moyen. Refuse de pour les raisons qui sont assez identiques. Alors, 2007 est l'avenir perçu à l'époque, fin 2007, pour ces acheteurs et ces vendeurs. Qu'est-ce que disent les acheteurs ? C'est que s'ils le peuvent, ils n'imposeront pas la dématérialisation. Et qu'est-ce que disent les vendeurs ? C'est que là aussi, vous voyez que c'est assez grave, ils disent pour certains qu'en cas de généralisation de fin 2007, ils refuseront de répondre les acteurs. Ça va quand même assez loin. Quelles sont les attentes ? Là aussi, les deux parties. Clarification du cadre réglementaire, sensibilisation et puis homogénéisation des plateformes. C'est à l'époque un souhait assez fort. Deuxième support que nous avons, c'est une étude quantitative, cette fois-ci, qui s'inscrit dans la lignée de l'étude DNS-OFRES. Je vais être bref là-dessus. On s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance. On est avant l'échéance du 1er janvier 2010. À l'époque, imaginez bien, un cinquième seulement des opérateurs avec connaissance de l'échéance du 1er janvier 2010. Un cinquième sur les acheteurs répondent qu'ils ont plutôt recours à la dématérialisation pour les procédures formalisées. Et en réalité, les entreprises téléchargent les DCE, mais évitent le dépôt des offres en ligne et les candidatures. On est quand même fin 2008. Vous voyez un petit peu l'état d'être. Alors, tout ça n'est pas très surprenant parce que on demande aux entreprises un minimum de compétences qu'elles n'ont pas encore acquises. Et puis, le principal frein à la dématérialisation, c'est le risque d'échec. Regardez, c'est 45% des réponses. Bilan, perspective à l'époque en 2010. Alors, les acheteurs publics connaissent beaucoup mieux que les entreprises le support dématérialisé. Il faut toutefois faire attention à ne pas tomber dans la caricature, mais ça dépend évidemment de quelle activité on parle. Donc, c'est bien le nombre d'informations qui est mis en avant à cette époque. Voilà pour ce qu'on a, les données brutes que nous avons. Alors aujourd'hui, 2012, juin 2012, que reste-t-il? Qu'est-ce qu'on peut identifier aujourd'hui c'est après la consultation, on recueille un certain nombre de opinions, de dialogues que vous pouvez avoir avec les uns et les autres, il reste des risques très précis. Alors d'abord, pour les acheteurs publics, un risque d'impréparation. Qu'est-ce que je veux dire par risque d'impréparation? Au-dessus de 90 000 euros, vous savez, le pouvoir d'acheteur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique. Que se passe-t-il d'un point de vue juridique et contentieux si le candidat se plaint de ne pas avoir pu participer, d'accord, à tout simplement à la procédure, parce que le pouvoir d'acheteur n'aurait pas été préparé à recevoir les offres. C'est le cas parfois des petites collectivités, il faut y faire attention. Alors, il est fort probable, en termes de contentieux, pour ceux qui connaissent le contentieux des contrats, que, en raison des contractuels, peut-être qu'on n'arrive pas à obtenir rien de cause. En revanche, le recours pour cette action de 4 euros en sortie de travaux pourrait peut-être contentieux. Un autre risque du côté des acheteurs, c'est le risque inverse, c'est le recours systématique à la dématérialisation pour répondre au prochain acheteur public. Alors, d'avoir imposé le recours à la dématérialisation pour des marchés où n'est pas obligatoire. Là aussi, la réponse n'est pas tout à fait claire. Autre risque, celui qui persiste aujourd'hui, qui est toujours difficile à cerner, c'est de la violation de l'intégrité et de la confidentialité des informations, ce n'est pas plus. Et puis, maintenant, c'est la question des traitements aussi des informations de nature. Alors, la CNIL n'a pas considéré qu'il y avait une obligation de déclaration, mais elle a évidemment posé des limites à l'usage des données ainsi collectées. Cinquième point très important, un risque pénal tout à fait spécifique. En dehors de la prise illégale d'intérêt de la compulsion et de tout à l'heure, il existe un article 323-1 du code pénal qui punit le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement de toute partie d'un système de traitement automatisé. Restez. Alors, de tout d'abord, cette infraction a l'air, il semble ne pas concerner les acheteurs publics, en réalité, il n'en est rien. Et j'attire la confiance des acheteurs publics ici sur le fait que la jurisprudence retient une notion, une exception assez sévère de la notion d'accès frauduleux. Et en réalité, je prends un exemple, il peut y avoir un opérateur, au moins un employé, un acheteur public qui veut modifier ou compléter en cours de procédure un dossier de consultation, il n'est pas impossible que, en ce sens-là, il se mette sous le coup, si je prends cette infraction pénale. Donc attention. Ensuite, les risques pour les candidats, il y a deux risques fondamentaux, le risque du temps de la maîtrise du processus de dématérialisation. Obtenir une signature électronique, ça prend du temps, et jouer avec l'heure de dépôt lorsque on a des dossiers lourds, c'est aussi très dangereux. Les conseils et les avocats disent souvent à leurs clients, faites attention, ne vous y prenez pas au dernier moment. D'accord ? Alors, une avancée, je suis sûr que certaines plateformes proposent. Aujourd'hui, certaines plateformes publiques ou privées accompagnent avec un tableau de bord leurs clients, si je puis dire. Et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'un client est un peu en retard, eh bien, prennent leur téléphone, appellent le client, disent monsieur, vous êtes un peu en retard, attention, vous pouvez vous accompagner. Donc voilà quelques problèmes de votre part. Dernière chose, le risque technique ou la maîtrise du processus, alors plusieurs risques techniques, d'accord. Une chose, la personne publique n'est pas responsable des difficultés de dépôt si elles ne sont pas engendrées par sa propre plateforme. On a plusieurs jurisprudences sur le sujet, par exemple, de l'adaptation de l'indicateur Internet par rapport au système d'exploitation d'un opérateur public, ça n'est pas du ressort de la personne publique. Alors, quelques exemples là aussi de risques liés à la technique, à la signature électronique, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure. La question plus généralement des preuves. Et attention, deux points importants, la validité du certificat et le choix du certificat est essentiel. Et là aussi, certaines plateformes ne préviennent pas les opérateurs privés parce que ces derniers utilisent le mauvais certificat. Voilà, voilà encore. Alors, je pense qu'on peut résumer en disant que c'est une situation qui est temporaire, on peut supposer, comme je suis en partie, tout ça, en revanche. Alors, le bilan juridique. Je vais essayer de vous présenter la jurisprudence de plusieurs manières. Allez-y. Plusieurs étapes. Avant l'achat, vous allez voir. Ici, vous avez quelques exemples. Alors, quelques exemples. Avant l'achat, regardez, l'administration qui a voulu créer et gérer sa propre plateforme, un mouvement de guerre à Paris. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, ça s'est mal passé avec l'opérateur en charge de la gestion de la plateforme. Ce dernier n'ayant pas été payé, enfin, c'est en gros une histoire. À cesser ses prestations, que je t'explique lorsqu'un opérateur qui est en charge de la plateforme cesse cette opération pour un conflit avec la personne qui est. Ensuite, un autre exemple d'administration qui a mal maîtrisé la formation de ses fournisseurs techniques de la dématérialisation. Alors là, c'est très simple. Peu avant la publication d'un avis de l'ARPC, l'administration avait convoqué certains de ses fournisseurs pour mettre en place une formation sur ses futurs procédures. Et c'est dit, il fallait en fait ouvrir la formation et que la procédure, en fait, ça ne pas mal. Parce qu'on a eu le taux d'égalité entre ceux qui avaient été formés et les autres. Quand on arrive au stade de la liberté publique à la concurrence, c'est aussi, à noter une chose, c'est que le Conseil d'État, une réponse importante de 2008, a indiqué que la date d'envoi de la liberté publique à la concurrence sur l'OMP devait être regardée également pour la date d'envoi au GIE, très important. Ce qui, du même coup, diminuait très fortement, voire éradiquait les risques de discordance d'un point de vue temporel. Mais dans le même temps que le Conseil de la cela, il met en avant certaines spécifications dans les avis qui prennent une importance plus grande, et le statut de certaines mentions est aujourd'hui adopté. Ce ne sont plus de simples informations, mais de véritables critères de recherche des opérateurs économiques, et nous retrouvons sur la question de la bonne mention des implications, une faute d'orthographe peut amener à la création. Et donc cette consultation est aussi importante. Alors, la jurisprudence a consacré, une meilleure accessibilité de l'information obligatoire. D'accord ? Alors, un exemple, le juge administratif considère qu'une mise en ligne simultanée des différents documents permet de combler l'omission d'un renseignement dans l'un des documents de la consultation. Alors, ceci est à nouveau tranchant parce que quand on ouvre tout à la transparence, il y a aussi des risques lorsque les contradictions sont apparentes, elles apparaissent en plein jour. Un autre exemple de jurisprudence administrative, lorsque les modifications du dossier de consultation engendrent un contentieux, parce que le candidat n'a pas eu connaissance de ces modifications, deux solutions, soit l'acheteur est responsable de cette modification, et dans ces conditions, il sera responsable, c'est un problème dans la procédure, mais effectivement, quand le candidat, je dis que l'administratif a eu connaissance de cette modification, modifie le dossier de consultation, alors, j'avance sur la question de la signature électronique. Alors là, le juge distingue les erreurs humaines des incidents techniques véritablement de transmission. Quelques exemples d'erreurs humaines, signature du fichier zip à la place de l'offre, ou création d'un fichier zip au contenu n'est pas précisé, par exemple, ou les incidents techniques de transmission, avec deux catégories vraiment qu'on peut identifier, les jugements favorables. Défavorable au candidat. Alors là aussi, ce sont quelques exemples de jurisprudence sur cette fois-ci le stade après la signature de la transmission électronique. Je prends un exemple, lorsque la négociation se fait par voie électronique, l'acheteur public doit le signaler dans les documents de la consultation sur la procédure est interdite. Alors, on passe quelques perspectives maintenant, je me dépêche, vous verrez alors quelques perspectives pratiques. D'abord, l'élargissement de l'utilisation du profil acheteur. Le profil acheteur doit être utilisé dans l'avenir dans un but d'optimisation de l'expression de ses besoins et de ses relations avec les fournisseurs et les prestataires potentiels. Donc vraiment un rôle important à attribuer à ce profil acheteur. Le recours plus fréquent au système d'acquisition dynamique, c'est très curieux. Hein, le système d'acquisition dynamique a été utilisé jusqu'à présent une à deux fois. Trois fois, et encore je crois que j'exagère en disant trois fois. Pour quelle raison? C'est un système extrêmement performant. Alors là aussi, ce sont des freins qui sont liés à des questions de technologie. D'accord? Mais attention, ces obstacles sont surmontés parce qu'on va y revenir. Dans leur dernière version, les transitions de directives européennes imposent des obligations beaucoup plus fortes en matière de dématérialisation et le système d'acquisition dynamique sera un outil performant. Donc il faut, si je veux dire, s'y mettre. Autre perspective opérationnelle, encore plus fréquent à la dématérialisation des entités et des pouvoirs soumis à l'ordre de l'article 25, qui n'utilise pas beaucoup pour le moment, moins. Quant aux perspectives juridiques, et j'en ai pas suffi, monsieur le président, les futures directives, c'est quand même pas négligeable. Il y a, dans ce qui est proposé actuellement, un paragraphe entier consacré à la dématérialisation, quatre points du préambule, et un article 19 pivot fondamental. Et qu'est-ce que dit cet article 19? l'utilisation de moyens électroniques devient obligatoire pour la transmission des aides du marché, et pour donner un accès gratuit, etc. Donc ça, c'est déjà en France, et ce sera élargi au central d'achat. Et autre point, c'est tout ce qui, souvenez, hein, on avait distingué deux grandes périodes dans la vie de l'État, tout ce qui est soumission électronique, candidature et offre, là, on a des dates très précises. D'accord, le paragraphe 7, les États membres veillent à ce que, sauf exception, l'AES, deux ans au plus tard, le 30 juin 2014, ça soit mis en place, si vous voulez, au cours systématiquement pour procédure des matériels. D'accord. Autre point important qui pose un réel problème qui devra, la perspective d'évolution, c'est la question des groupements d'opérateurs économiques, la réponse des groupements d'opérateurs économiques. Si vous regardez la responsabilité explicative au formulaire D5 qui est associé, vous voyez qu'en termes de remise des titres par voie électronique, il est quasiment impossible matériellement que le mandataire puisse joindre chacune des signatures électroniques des autres membres du groupement, sauf à proposer de son mandat. Alors ça, on ne sait pas trop comment on va faire. Alors le ministère réfléchit à cette question, on trouve un début de réponse dans le projet d'arrêté sur la signature électronique, mais, comme je vous l'ai écrit, cette action ne comporte aucun élément pratique. Dernière chose, le contrôle de l'égalité, mais aussi une aberration, c'est que certaines entreprises répondent par voie électronique, et beaucoup d'acheteurs publics demandent aux acteurs, donc aux lauréats du marché, de leur communiquer leur dossier de candidature signé de manière manuscrite par voie papier, afin de faire le contrôle de l'égalité. Bon, après. Voilà, j'en ai terminé, ce que j'ai tenu mon appel. Voilà, merci.